messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le conseil municipal. On va commencer par faire l'appel. Voilà, madame. Est-ce que je peux avoir la liste d'appels, s'il vous plaît? La liste d'appels? Oui. Isabelle Cousin présente, Gilles Cousin
présent,
Juliette Patroki-Cama
présente,
Gilles Chico
présent,
Séverine Ségismond
présente,
Corinne Durand
présente,
Mélanie Arnal
présente,
Hélène Bonnet-Cuel
présente,
Dominique Baril
présent,
Guillaume Garcin
présent,
Laurent Mailloux
présent,
Jean-Claude Mouret
présent,
Claudine Moyen-Anne
présent,
Patrick Ortigoza
présent,
Véronique Pomarène
présent,
Laurent Prat absent a donné pouvoir à Gilles Cousin, Laurence Rousseau
présente,
Bernard Senot absent a donné pouvoir à Gilles Chico, c'est ça, Yolande Terrain
présente.
N'oubliez pas de signer aussi pour les personnes qui ont donné pouvoir. Donc, je passe à l'approbation de l'ordre du jour que vous avez sous les yeux. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Qui veut bien se proposer pour être secrétaire de séance? Il s'agit de relire.
Moi, je veux bien.
Séverine Ségismond, merci. Et donc, on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 1er juillet, que vous avez reçu, est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, je mets son approbation au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Et donc, on passe dans le vif du sujet avec les trois premières affaires qui vont être présentées par Séverine. On commence par la deuxième décision modificative de l'année.
Oui, donc en fait, il s'agit d'une décision modificative du fait qu'on a touché par deux fois la taxe d'aménagement sur un permis qui a été transféré. Le premier permis avait été annulé et quand le second permis a été présenté, on a toucher une deuxième fois la taxe d'aménagement alors qu'on n'aurait pas dû puisqu'on l'avait déjà touché une première fois. Du coup, aujourd'hui, la trésorerie nous demande de rembourser la taxe qu'on a perçue en trop. Et comme ce n'était pas prévu au budget, il faut qu'on fasse une petite décision modificative pour inclure cette somme en dépense. Donc, il s'agit de 1 800 €. Et pour faire la petite bascule, on va les déduire sur le chapitre 204. On va déduire 1 800 € qu'on va pouvoir recréditer pour pouvoir payer, rembourser cette taxe d'aménagement.
Tu as dit
1 800 ? 8 800 €. Oui. C'était
le masque. Pas dommage.
Voilà, donc ouais. Voilà, c'est une opération. On doit faire pour que la trésorière puisse rembourser. Est-ce qu'il y a des observations? Là, c'est des opérations qui se font automatiquement. Là, c'est prélèvement de taxes, ça passe avec des impôts, que ça se passe. Oui. Voilà, donc c'est eux qui après nous demandent de rectifier. Voilà.
Ça ne devait pas entériner le budget, de ne pas avoir perdu du sang.
Le budget?
Oui.
Non, on a déduit en fait la somme d'une ligne où les dépenses n'étaient pas en fait en totalité pour pouvoir les créditer pour le remboursement. Voilà.
C'est sur la section investissement.
Oui, c'est sur la section en investissement, donc c'est plus facile qu'en fonctionnement.
On est en investissement.
Oui, on est en investissement.
Merci, hein, Yolande, tu as raison de poser la question. Donc, moyennant cet éclaircissement, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Donc, cette décision modificative à la demande de la trésorière. Et puis maintenant, on va passer. Alors, il faudra peut-être que tu réexpliques les travaux en régie qu'on a instaurés. Oui, pour expliquer ensuite les deux affaires qui viennent.
Voilà. Je peux peut-être combiner, expliquer les deux.
Ouais.
Voilà, d'abord. Donc les travaux en régie. Cette année, on a décidé d'inscrire au budget ce qu'on appelle des travaux en régie. Les travaux en régie, ce sont des travaux d'amélioration du patrimoine qui ne sont pas faits par une entreprise, mais par notre personnel. Donc quand sur un bâtiment, il y a des gros travaux qui sont effectués, ce sont des factures qui se payent en fonctionnement, puisque la matière première pour les travaux, ce seront des dépenses de fonctionnement, sauf que ça apporte de la valeur au bâtiment. Du coup, on fait ce qu'on appelle une opération de travaux en régie, c'est-à-dire qu'en fin d'année, on va basculer en dépenses d'investissement la totalité des dépenses de travaux en régie qui auront été payées dans l'année en fonctionnement. Pour cela, donc, il y aura les matières premières qui vont être rebasculées en dépenses d'investissement, mais il faut également évaluer le coût des agents, puisqu'on valorise le travail des agents. Comme pour une entreprise, vous avez toujours de la main-d'œuvre qui est payée quand vous payez votre facture. Donc là, il faut valoriser le coût d'un agent. Et également, quand il y a de l'utilisation de matériel spécifique, il faut évaluer le coût de location du matériel sur une journée. Donc c'est l'objet des deux délibérations qui vont suivre. Donc la première, c'est estimer le coût des agents. Donc on fait une moyenne de tous les traitements des agents qui sont concernés. Et on fait un coût horaire, on fait une moyenne en fait. Voilà. Donc pour le coût des agents, on propose de facturer, entre guillemets, on va s'auto-facturer, quoi, 20,88 € de l'heure brute. Donc ça, c'est l'objet de la première délibération. Et pareil, dans la troisième délibération, vous avez tout le matériel qui est utilisé lors des travaux en régie et il y a eu une estimation du coût à la journée. Donc pareil, quand il y a du matériel utilisé, il est valorisé dans le coût total des travaux en régie. Je ne sais pas si j'ai été claire, si je suis con. Voilà, c'est pas évident.
Peut-être avant de rentrer dans les... Tu pourrais peut-être expliquer l'intérêt au-delà de l'intérêt des travaux en régie par rapport
oui.
À la télé.
Alors, déjà, quand on bascule ces travaux en investissement, du coup, l'année suivante, on va pouvoir récupérer la TVA de tous les achats qui ont été effectués pour les travaux, chose qui ne se fait pas en fonctionnement. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que vous achetez un bâtiment, votre bâtiment vaut 50 000 €, et vous faites des travaux dedans qui sont effectués par le personnel. Forcément, vous apportez de la valeur à votre bâtiment. Mais si cette opération de travaux en régie n'est pas faite, la valeur n'apparaîtra jamais sur votre inventaire qui est accroché à votre bâtiment. Votre bâtiment, quand vous l'avez acheté, il vaut 50 000 €. Si demain, vous faites 10 000 € de travaux et que vous ne faites pas cette opération des travaux en régie, votre bâtiment, demain, il va toujours valoir 50 000 €. On ne va pas valoriser les 10 000 € de travaux qui ont été faits dedans. D'où l'intérêt de ces travaux en régie. Voilà. Et la récupération de la TVA l'année suivante, qui ne se fait pas si on laisse toutes les factures en fonctionnement.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Voilà, donc c'est une opération comptable, quoi, qui...
Alors c'est une opération comptable qui va se présenter... Donc les factures des travaux ont été payées en dépenses de fonctionnement, et à la fin de l'année, ces dépenses, on va émettre un titre en fonctionnement, donc ça va devenir une recette de fonctionnement. Et à côté de ça, on va refaire une dépense d'investissement. Comme ça, la somme aura été rebasculée en investissement. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on va grouper les questions peut-être pour les deux délibérations, même si on va les prendre successivement, sur ces travaux en régie. C'est clair ? S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais passer au vote. Alors, sur la première délibération, qui est la détermination du coût horaire des agents municipaux, qui sera donc fixé à 20,88 €. Alors, ça, c'est pour l'année 2021. Donc, il va falloir qu'on refasse la délibération chaque année. Donc, pour le 2021, donc, on fixera, si vous en êtes d'accord, le coût horaire moyen du personnel à 20,88 € pour calculer le montant de travaux en régie. Qui est contre ? qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour la détermination des coûts de matériel, toujours pour estimer les travaux en régie, vous avez la liste, on ne va pas toute la lire, hein, la liste de tous les matériels, qu'ils soient loués ou qu'ils appartiennent à la collectivité, en fait. Donc, quel que soit le montant réel de location, on adopte quand même un tarif forfaitaire, je dirais.
C'est ça, fixe. C'est ça.
Bon. C'est des opérations comptables. Par rapport donc à cette troisième affaire concernant le coût du matériel, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. On passe à la quatrième affaire, qui est, merci Séverine, donc là je passe la main à Gilles, par rapport à la signature d'une convention d'assistance juridique en urbanisme.
Oui, alors aujourd'hui, effectivement, la collectivité est de plus en plus confrontée à des procédures juridiques et de façon à ce qu'on puisse maîtriser un peu mieux le coût et en même temps avoir un cabinet d'avocats qui soit spécialisé et qu'on ne fasse pas toujours au coup par coup, mais là vraiment qu'on rentre dans une convention, on va être obligé de passer une convention donc avec un cabinet juridique et... Alors, pour ça, dans l'exercice de ses compétences, la commune est confrontée à des difficultés d'ordre juridique et souhaite recueillir l'avis de professionnels du droit afin d'assurer à ses décisions la meilleure sécurité juridique possible dans le cadre des problématiques et des différends qu'elle rencontre en matière de droit de l'urbanisme. Après examen de ses besoins, la commune considère qu'il est nécessaire de passer une convention d'assistance avec un cabinet d'avocats lui permettant d'être conseillé au fur et à mesure des interrogations ou des difficultés qui surviennent. La commune estime également qu'il est indispensable de se faire assister d'un cabinet d'avocats qui rassemble des compétences en droit public général et en droit de la fonction publique, dans la mesure où elle est confrontée à des problèmes qui ressortent de ces matières, et ce parfois de manière simultanée, sans préjudice des autres domaines du droit que le traitement des questions soumises pourrait faire intervenir. La commune attend de cette assistance un suivi et un accompagnement dans la durée et une réactivité à ses demandes. Pour ce faire, elle propose de passer une convention d'assistance avec Maître Hélène Bras. Le projet de convention est annexé à la présente délibération et précise l'objet d'assistance juridique, le champ d'application du domaine du droit public et plus spécifiquement du domaine du droit de l'urbanisme. Elle cadre la mission qui exclut la mission contentieuse. La mission est en revanche une mission générale et permanente de conseil et d'assistance juridique. Les prestations demandées par la commune, les honoraires de l'avocat seraient réglés sur la base d'un prix honoraire de 200 euros hors taxe. Cette convention aurait une durée d'un an. Cette convention pourrait être renouvelée par tacite reconduction sans que la durée totale de la convention ne dépasse 3 années. Voilà, et ça, aujourd'hui, on est vraiment confronté de plus en plus à des recours contentieux. Alors, des fois, ça part de simples contentieux entre voisins, mais qui se reportent sur un permis de construire ou un permis de travaux. Et donc, ils nous attaquent régulièrement. Et dans un premier temps, on essaye de se défendre, mais aujourd'hui, il s'avère qu'il faut absolument se défendre d'une manière juridique pour protéger la commune et aussi les citoyens. Et on est plus. Voilà,
c'est pas le contentieux. C'est si vraiment on doit aller au tribunal ou quoi, là, une prestation particulière. C'est tous les conseils juridiques dont on a besoin en amont.
Tout à fait.
Oui, Laurent.
Question, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter par an en termes d'heures et donc.
On peut peut-être dire, on a déjà une convention avec Maître Bras pour les ressources humaines, pour la question du droit, toujours dans le droit public, du droit. Pas du travail, mais c'est pas le travail, parce que c'est pas le travail, c'est en dehors de la fonction publique. Mais tout ce qui est lié à l'intérieur, personne ne peut peut-être dire aujourd'hui à combien on en est, Nathalie.
Je pourrais le regarder, mais là je l'ai pas en tête.
Ouais.
Parce que comme la ligne elle est globale,
la ligne comptable.
Ouais, je peux pas. Entre honoraires et conventions, je pourrais regarder dans les différentes factures, mais là en tête je. En RH, c'est pas énorme, je pense qu'on n'atteint pas les 1000 euros de conseil. Sur une année, et puis ça varie, là on l'a depuis quelques années, hein, la convention En urbain, ça va être plus important parce que c'est vrai qu'on va le prendre.
Et l'intérêt aussi d'une convention, c'est qu'effectivement, entre le coût par coût, où le coût est beaucoup plus cher, et une convention, voilà, on cadre les choses, et ça nous permet d'avoir, quand on a un besoin d'assistance juridique, en tout cas sur certains points, et en ce moment, on sait que...
On ne l'a pas budgété pour 2022.
Ben, on a un budget global tous les ans pour tout ce qui est le conseil juridique. Hein, on l'a, cette enveloppe-là, on la décide tous ensemble. C'est dans cette enveloppe qu'on ne va pas augmenter cette enveloppe. C'est qu'on reste dans cette enveloppe budgétaire qu'on a tous les ans, mais qu'on utilise cette convention pour être plus efficace, je dirais.
Et en même temps, avoir un prix déjà qui est fixé, qui n'est pas un prix à la demande, mais on sait que le prix à la demande est en supérieur par rapport à un prix qui est fixé par convention, pour rester justement dans l'enveloppe qui a été fixée, je ne sais plus combien il était, 10 ou 14 000,
tous les ans, je ne sais pas combien il y a eu, mais c'est votre enveloppe.
L'enveloppe juridique a déjà été votée, en fait.
Entre le contentieux et les honoraires, ça doit être ça, parce qu'il y a 8 000 euros sur l'une, et puis il doit y avoir 5 000 euros sur
l'honoraire.
Donc c'est à peu près ça.
Voilà. Et le but, c'était justement de pouvoir rester au vu des affaires, enfin, du moins.
Je ne sais pas si c'est clair.
Vous êtes de plus en plus demandé.
Si, je pense que c'est positif parce que du coup, on a un suivi, on a la réactivité, on a une qualité, on a un gain sur le coût, évidemment, mais on a aussi une qualité de suivi.
Ben on a de fait déjà Maître Bras, on la sollicite de temps en temps, mais là, l'idée, c'est que, ben oui, il y a de la réactivité, il y a un tarif préférentiel parce qu'on conventionne avec elle, c'est-à-dire que. C'est une sorte de contrat d'exclusivité, on va dire. C'est avec cette personne qu'on va aller, on va avoir recours si, dès lors qu'on a besoin d'un conseil. On le fait déjà côté.
Je n'ai pas d'idée, mais je pose la question, parce que quand même, c'est la norme, là, le tarif de 100 euros par heure. C'est quand même les chiffres dont on n'est pas tout à fait habitué.
C'est 400-500 euros à l'heure. Donc, 200 euros hors taxe, je pense que...
Elle ne nous fait une facture que dès lors qu'elle a rédigé un conseil.
Oui.
Un conseil, mon téléphone aussi.
Non, justement. Non. Il m'arrive de l'appeler pour une petite précision, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est...
En fait, alors que normalement, même un coup de téléphone à un avocat est payant, puisque c'est à l'heure, enfin, c'est à la minute, il t'envoie la facture. Donc,
ce que fait Maître Bras, c'est dès lors qu'elle nous envoie un conseil écrit, suite à une question qu'on nous pose. En fait, c'est ça ce qui se passe, on pose une question, quelle attitude on doit avoir par rapport à tel ou tel dossier. Et donc, elle examine le dossier et tout, et puis elle rédige un conseil. Et c'est, je pense, en fonction du temps qu'elle met à préparer ce conseil, qu'elle nous envoie la facture.
Je dirais que Muriel n'est pas la seule commune qui est concernée de plus en plus par ses besoins d'aide juridique, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui il faut se borner de plus en plus, notamment en droit d'urbanisme, parce qu'on sait que là il y a de plus en plus de recours, les gens ont des assurances et ils sont de. Donc il faut qu'en amont on ait vraiment les bons conseils pour avoir les bons choix et s'éviter des recours qui arrivent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette proposition de convention? S'il n'y en a pas, je la mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Alors maintenant, on va passer à... Du coup, je vais peut-être les présenter, les deux affaires, la 5 et la 6, qui concerne le personnel et de la mairie et la mise en place de deux éléments, la formalisation en fait de deux dispositifs, le télétravail déjà, puis ensuite le régime d'astreinte et de permanence. Donc la cinquième affaire, c'est sur le télétravail. Donc, entendons-nous bien, il s'agit du télétravail tel que la loi la rend possible dans le monde du travail. Et donc on doit la mettre en place donc, dans la fonction publique territoriale, donc dans les communes. Il ne s'agit pas du travail à domicile. Le travail à domicile, c'est exceptionnellement ce qu'on met en place dans le cadre du confinement, par exemple. Le télétravail, c'est quelque chose qui est dans un cadre beaucoup plus établi. Donc on doit, en fait, on doit fixer les conditions dans lesquelles ce télétravail va se mettre en place. Déjà, c'est une démarche volontaire, c'est-à-dire que les agents font la demande. Ce n'est pas imposé. Donc ils font la demande. Pour pouvoir bénéficier du télétravail, il faut avoir une activité éligible au télétravail. Donc on a la liste des activités, c'est classique, hein, qui sont éligibles au télétravail, c'est celles qui peuvent se faire loin du poste de travail, loin de la mairie. Donc du coup ne sont pas admises tout ce qui concerne l'accueil physique, les activités de maintenance, entretien des locaux, les espaces verts voiries, l'accueil d'enfants en garderie, la police municipale, voilà. Donc les autres activités sont éligibles. Dans le télétravail aussi, on va fixer, on définit la liste, la localisation des locaux, le télétravail peut se faire au domicile. On précise, parce qu'il faut que les agents soient bien intégrés, enfin je dirais bien en tête, qu'il faut qu'ils montrent qu'ils rassemblent sur leur lieu de travail au domicile suffisamment de conditions pour que le travail se passe dans des bonnes conditions. Que dire de plus? On fixe, alors le choix c'est de fixer des jours fixes. Je sais qu'il y a d'autres dispositifs, on en parlait encore avec Laurent Maillou, qui sont beaucoup plus souples, où les jours ne sont pas forcément fixes. Là l'idée c'est que l'agent se positionne sur un jour fixe. Alors bien entendu, il y a des semaines exceptionnelles où on peut faire varier le jour, et ça c'est dire en bonne entente que ça se fasse, il n'y a pas de souci. Mais l'idée c'est de partir sur un jour fixe. Et après, avoir un volant de jours flottants. C'est un peu le principe sur lequel.
Mais sans jamais dépasser plus de 2 jours par semaine.
Et voilà, pas plus de 2 jours par semaine. Au total, en moyenne. Hein, sachant que c'est
écrit, excuse-moi Isabelle, c'est écrit à 2 jours par semaine jours. Ou à 12 jours par mois.
Ça fait 8. Mais là, c'est marqué.
Oui, parce qu'il y a certains. Il y a...
Si tu rajoutes des jours flottants, tu crois que ça va plus de jours
qu'il arrive. Oui, parce que imaginons qu'il y a des jours flottants qu'on veut plus grouper sur un mois. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 12. Voilà. Donc ça veut dire que le mois suivant, on va descendre à 8 ou 7 ou 6. Okay. Mais même si on bouge ces jours flottants, on ne peut pas excéder les 12. Voilà. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore comme élément important dans la décision? Ah oui, on pourra aussi de façon ponctuelle, c'est un peu la question du séjour volant, de façon ponctuelle à accorder le recours au télétravail. Ah oui, pour pouvoir exercer en télétravail, la quantité des fonctions pouvant exercer en télétravail ponctuel ne pourrait être supérieure à 3 jours par semaine. Sauf en cas d'événement climatique, pandémie, où on pourra moduler. Il y a toutes les dispositions qui sont prises sur les systèmes d'information, protection des données, donc je ne vais peut-être pas relire tout ça dans la délibération. Ce qui est très important, c'est que l'agent, on est vraiment en situation de télétravail. On est vraiment à distinguer des situations, par exemple, les agents peuvent être restés à la maison dans une situation spéciale d'absence ou quoi, ou en cas de pandémie, on a un enfant à la maison. Alors, soit un enfant qui ne peut pas être scolarisé parce que on ne peut pas rester en classe sans thé, ou un enfant malade, etc. Dans ces cas-là, c'est clair que la situation de télétravail ne peut pas être prise. On n'est pas en situation de télétravail. Et surtout, ce qui est bien stipulé, parce que derrière cette délibération, bien entendu, l'agent, une fois qu'il a demandé le télétravail et qu'on lui accorde, il reconnaît, bien entendu, qu'il a pris en considération toutes ces dispositions. Il ne peut pas s'absenter de son domicile. Il est en télétravail. Sinon, il quitte son poste. En plus, derrière, vous savez, il y a des questions d'assurance. Voilà, ça c'est les principales dispositions. Après, ben, le temps en télétravail compte de la même manière que le temps en présentiel. Et les autres dispositions importantes.
Mis en place un petit contrôle
voilà.
De la présence par mail en fait ou par, par téléphone, on se contacte.
Oui, une disposition qui me semble importante, c'est la prise en charge par l'employeur des abonnements. Voilà. J'imagine de l'abonnement Internet. Il y a d'autres situations d'administration en télétravail qui ne prennent pas en charge ces abonnements. Je sais de quoi je parle. Donc là, je veux savoir si c'est une obligation dans les collectivités ou si c'est un choix de la commune d'appliquer ça.
Il y a marqué abonnement pour tous les. C'est parce qu'on a fait, on a pris en charge une partie, bah, quand ça s'est présenté, bah, surtout les fournitures qui ont été utilisées par les agents, mais il n'y a pas eu de remboursement des abonnements ou quoi que ce soit.
L'électricité,
non. Parfois dessus, il n'y a pas eu d'abonnement dans la déclaration.
Abonnement, c'est
pas
le point
7.
C'est le point 7 ?
Les outils, ça, il n'y a pas de souci, hein, l'ordinateur, les prix, mais l'abonnement, c'est pas neutre.
C'est à quel article ?
C'est juste avant de s'en décider. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnement, communication et outils, etc.
Ah, c'est abonnement au logiciel.
Oui, c'est le logiciel, c'est tout ce qui concerne l'ordinateur qui nous. Parce qu'en en fait, on a mis à disposition des ordinateurs portables, des agents.
Il faut qu'on précise l'abonnement. Ah, oui, c'est abonnement au logiciel.
Moi, abonnement, j'ai tout de suite.
Non, mais tu as bien fait.
Pour le téléphone aussi, si on l'appelle sur son portable ou sur son téléphone fixe, si ça sert de son téléphone fixe.
Non, là, du coup, on a mis en place des abonnements téléphoniques pour les agents.
On a des téléphones portables pour les agents qui utilisent le téléphone pour le travail. Ça, on est doté de ça, donc pour ça, il n'y a pas de...
Téléphone professionnel.
Voilà.
Téléphone professionnel.
Et l'employeur n'est-il pas tenu de vérifier que, que l'employé soit bien installé ? Enfin, qu'il y ait un bureau, qu'il y ait quelque chose, tu vois, qu'il ne soit pas sur une table de cuisine et que ce ne soit pas... Voilà,
Alors, c'est l'agent qui est censé donner les conditions dans lesquelles il travaille et avoir les conditions nécessaires.
Il
n'y
a pas une vérification qui est faite.
Elle n'est pas automatique. C'est l'agent, quand il demande... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une obligation, c'est l'agent qui fait la demande. Et quand il fait la demande, il doit expliquer qu'il a bien à son domicile les conditions nécessaires et suffisantes pour travailler dans de bonnes, enfin, pour être dans de bonnes conditions. C'est lui qui doit l'expliquer ça. Et il peut y avoir des conflits. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas une obligation.
Il y a aussi un problème d'assurance, c'est-à-dire que la personne qui travaille en télétravail chez lui, elle est assurée par son employeur.
Oui.
Donc il faut que la maison dans laquelle il est, le lieu où il est, soit conforme à la législation. Au niveau électricité, incendie, machin. Est-ce que l'assurance aussi, soit assurée pour pouvoir travailler chez lui ? Il faut être vigilant à ce qu'il nous fournisse des documents comme quoi il est bien assuré chez lui et que sa maison est en conformité.
Oui.
Parce qu'on est responsable de lui même quand il est chez lui.
C'est bien pour ça que c'est à la personne de démontrer qu'elle a bien les conditions ressemblées.
Nous, ils ont une certificat de comme quoi la maison est bien conforme.
On le demande et ils nous transmettent également. On l'a demandé à chaque personne pendant les périodes de confinement, ils nous ont tous remis une attestation de ceux qui étaient en télétravail.
Alors, cet élément, donc cette disposition pour la mise en place du télétravail, comme l'affaire suivante, ont été examinés avec les agents. Ça a été examiné par le centre de gestion et ça a été examiné en commission du personnel. Voilà. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'agents concernés à la mairie, mais bon, au moins, ça permet pour ceux qui seront concernés d'avoir une situation formalisée, une chose qui n'était pas jusqu'à présent. Patrick, oui.
Oui, après, j'ai des questions qui sont venues, je dis, parce qu'on est en temps plein, par là aussi, au boulot là-dessus. Ouais. En fait, on se rend compte que souvent, dans certaines situations, les personnes qui restent sur place au travail, en gros, récupèrent le travail de ceux qui sont chez eux. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Sur une journée, un exemple comme ça, hein, une personne qui est à l'accueil, elle va partir en télétravail chez elle. La personne qui est à normal dans son bureau, elle ne va pas récupérer son travail. C'est ce que je veux dire.
Elle ne peut pas partir en télétravail. L'accueil n'est pas concerné par le télétravail.
L'accueil physique n'est pas concerné par le travail.
Ni les personnes qui sont sur site, exclusivement
les administratifs. Le télétravail de certains déborde sur l'autre parce qu'il ne peut pas prendre de télétravail. Voilà. Ce qui se passe chez nous actuellement. C'est pour ça que.
C'est pour ça que les jours sont déterminés de façon à pouvoir, pour le reste de la collectivité, qu'il y ait justement les bonnes personnes sur les bancs lorsqu'il n'y a pas du tout dans les postes. C'est pour ça qu'en fixant les jours et en ne les rendant pas présents, ça évite de se permettre de mieux cadrer.
Et maintenant, je vais pas dans ma casquette syndicale, parce que ça s'est débattu pendant 2 ou 3 ans chez nous. Eh bien, on fait une discrimination sur les personnes qui ne peuvent pas prendre le télétravail. Voilà.
Ouais.
Automatiquement.
Bah, c'est comme, dans tous les postes, il y a des gens qui peuvent avoir accès à certaines choses et d'autres pas.
Ça donc, il faudrait être peut-être dans ces cas-là vigilant. Si ces personnes ont besoin d'un jour par-ci par-là parce que. Ils ont des choses à faire, à être assez souple avec eux.
Pour faire quoi?
C'est mon esprit.
Des choses à faire. C'est peut-être là où il faut faire la différence. Télétravail ne veut pas dire ne pas travailler. Télétravail, c'est travail. Alors certes, tu as le confort de ne pas faire la route.
C'est la compensation. Je n'ai pas dit qu'il n'allait pas travailler.
Il
n'y
a pas de compensation.
Il a simplement. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui va tous les jours travailler, il a des frais.
Oui.
Souvent, c'est des petits métiers qui ont. Ils ne peuvent pas faire du télétravail parce qu'ils sont au chantier, parce qu'ils sont sur les voiries, parce qu'ils sont, je ne sais pas. Et les gens qui sont au bureau, qui ont souvent des métiers mieux payés, c'est eux qui en profitent. Donc il y a double peine en gros. Et c'est par rapport à ça que peut-être s'il y a des demandes et des fois qui paraissent un peu, il faut être peut-être plus vigilant à être plus souple. Quoi. Voilà. Je ne dis pas qu'il remplace, je veux dire en compensation.
Oui, tu parles des frais.
Ou autre chose, je dis ça, mais sur autre chose, sur un décalage de son temps de travail, sur des choses comme ça. Voilà.
Alors, attention, là on rentre dans quelque chose.
C'est un vaste sujet, attention.
Ouais, mais ça se passe bien. On alterne au niveau de l'équipe municipale, donc il ne faut pas mettre soucis, là il n'y en a pas. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que. Les personnes, si on rentre dans ce genre de considération, ce que je veux dire, c'est qu'on risque d'avoir après des personnes qui disent, moi je compte, peut-être que je télétravaille, et je télétravaille, quand je télétravaille, je travaille, mais je ne compte pas mes heures si je reste 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure de plus certains jours. Vous voyez ce que je veux dire? On risque de rentrer dans des comparaisons entre les uns et les autres qui sont...
Tu peux avoir la comparaison aussi du chauffage, celui qui est chez lui va consommer plus que...
Voilà.
Quand il va au boulot, parce qu'il est réduit. Non, mais ça a été vu. Hein.
Ça a été vu
aujourd'hui. Il y a eu une surconsommation due au télétravail, parce que chez eux, les gens chauffent plus, parce que tu n'es pas à 16 degrés ou 17 quand tu pars et tu reviens. Tu peux caler ça dans ta journée. Ah non, mais chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, tu cales ça. Et les gens arrêtent leur chauffage à 8 heures le matin, ils savent qu'il y a les tarifs, ils le remettent à 16 heures, ils arrivent à 17 heures, c'est la maison chaude, mais entre le temps, il y a eu moins de chauffage. Donc, ils ont des factures supérieures. Là aussi, comment tu compenses? Parce que si tu veux rentrer là-dedans, ça va être très compliqué parce qu'il y a toujours des gains et des pertes des deux côtés en fonction. Et ça, c'est des
choses qu'on réelles.
Voilà.
En tout cas,
c'est ça. Mais
ici, alors à la mairie, il y a peu de personnes qui sont concernées par le télétravail et ça a déjà été installé. Instauré et jusque-là, on n'a pas eu, moi, ma connaissance, c'est un peu on n'a pas eu de remarque
dessus. Nathalie Mandy, hein,
et Benjamin.
Benjamin et Laurence.
Et Laurence
a arrêté.
Et Laurence.
C'est l'administratif principalement qui n'a pas eu, qui n'a pas un accès direct. Mais ce n'est pas tous les jours, comme on a dit, c'est très limité aussi. Mais ça permet de l'autoriser, en tout cas de l'encadrer. Le but était de l'encadrer. Après, tout le monde est demandé.
C'est un droit. C'est un droit, donc il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer, maintenant c'est
même, je ne sais même pas si ce n'est pas la même législation que chez nous, donc un fonctionnaire d'État. Nous, en fonctionnaire d'État, n'importe qui peut le demander, ils sont obligés de te l'accorder. Et obligés de te fournir du travail à faire.
Là, c'est la territoriale,
c'est pas le même. C'est carrément après le droit de fonctionnaires territoriaux, je ne connais pas la réglementation.
Mais... Ben là, c'est un droit, donc on le met en place, c'est ce qui est là. Par contre, voilà, c'est une demande, mais voilà, on pose ici un petit peu le cadre dans lequel, et c'est clair pour tout le monde.
Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été fait aussi.
Moyennant la petite précision sur les abonnements, en effet.
Oui, mais il ne faut pas oublier que ça a été fait aussi à une époque dans la précipitation, quand il y a eu le Covid et qu'il fallait mettre les gens en télétravail ou en hasard, en fonction des. Et sans cadre. Là, maintenant, la loi demande à l'encadrer et il est encadré. Voilà.
Enfin, il le demandait même avant.
Oui, il le demandait avant, mais sans cadre de l'encadrer. Voilà, ouais.
Alors, merci pour ces remarques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet important? S'il n'y en a pas, donc je mets au vote l'affaire numéro 5 donc, qui donne les modalités de mise en œuvre du télétravail pour les agents de la collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et puis donc la sixième affaire, toujours pour le personnel, là aussi, c'est un élément qui va bien venir clarifier certaines choses, c'est la mise en place du régime d'astreinte et de permanence des agents de la collectivité. Donc ce qui est intéressant dans cette délibération, c'est qu'il y a un tableau à la page 13 là, du rapport qui note bien la différence entre l'astreinte et la permanence. L'astreinte, en fait, on est très peu concerné à Montréal jusqu'à présent. Ce sera le jour où on voudra la mettre en place si besoin. Et notamment, on pourra s'y référer, je crois, en cas de réquisition du régime d'astreinte. Donc, la période d'astreinte, c'est quand l'agent est à son domicile, peut vaquer librement à ses occupations, mais peut être mobilisé à tout moment. Donc, ça, c'est l'astreinte. Et donc, quand il est en astreinte, il est à son domicile, en fait. Et,
il est où il veut,
mais il est disponible, il n'est pas sur le travail, je dirais ça autrement. Et il est disponible, il est joignable à tout moment, il est disponible pour intervenir. Le temps d'astreinte, ce n'est pas du temps de travail, par contre il y a une indemnité. Et après, il y a le moment de l'intervention elle-même qui, elle, est aussi cadrée. Et après, il y a la période de permanence. Là, c'est autre chose. Là, c'est souvent la permanence, quelque chose qu'on peut anticiper ou de façon plus ou moins longue, et où l'agent, on demande à l'agent d'être présent sur le lieu de travail en dehors des heures habituelles de travail, qui ne sont pas inscrites à la fiche de poste. Et dans ce cas-là, il est sur le lieu de travail et c'est considéré, cette permanence, comme un moment de travail. Alors une permanence, ça peut se faire le soir, en soirée ou le week-end. Et donc, on clarifie dans cette délibération la définition, comme je viens de la donner. Et on clarifie les montants d'indemnité qu'on versera aux agents en fonction de s'ils sont en astreinte et s'ils sont en permanence, et en fonction du moment de la semaine et de la durée. Ce qui est important, c'est que pour une permanence, ou pour une intervention, c'est surtout pour une permanence, pour une intervention astreinte, je ne sais plus, ce qu'on décide ici, c'est qu'on instaure une durée de 2 semaines pour prévenir la personne de la date à laquelle on lui demande de faire une permanence. Donc ça veut dire que, Nathalie, il faudra qu'il y ait un courrier écrit pour 15 jours. C'est 15 jours calendaires, j'imagine, c'est pas 15 jours. Si on fait la demande dans un délai plus bref, l'indemnité est augmentée.
Par exemple, en cas d'intempérie, quand il y avait la neige, par exemple, si on demande le jour même.
Alors, là, c'est autre chose. Ce sera de la réquisition. Donc, ça ne rentre pas ici. C'est un autre. Alors la réquisition, il n'y a pas besoin de délibérer parce que c'est quelque chose de fait que je peux, que moi, en tant que maire, c'est un arrêté, c'est un cadre. Par contre, quand on réquisitionne, les indemnités sont calculées sur l'origine d'astreinte. Mais les interventions origine d'astreinte. Mais une réquisition, c'est une troisième disposition. Donc là, c'est un arrêté du maire que je peux faire au moment d'une catastrophe naturelle, une inondation, un feu de forêt, une urgence absolue. Et donc, je peux, en tant que maire, réquisitionner le personnel, réquisitionner des Murgellois, réquisitionner du matériel. Bien entendu, après, il y a indemnisation. Mais si les personnes ne sont pas là, elles ne sont pas là. On ne va pas réquisitionner quelqu'un qui est au bout de la France, etc. Mais si la personne est disponible, n'est pas malade ou quoi, voilà, elle est réquisitionnée, elle doit venir. C'est une situation. Mais bon, cet arrêté, il s'est fait vu les circonstances, quoi. Je ne fais pas des réquisitions dans des situations normales. C'est vraiment dans une situation exceptionnelle. Donc ça c'est un arrêté que je peux faire pour... après, voilà, une réquisition, il faut que la personne puisse être mobilisée. Et si, par exemple, il y a une inondation et que des agents qui habitent à Montpellier ou à Montarnaud ne peuvent pas venir, bon, ben, je n'ai pas les réquisitionner, j'ai réquisitionné les agents de la commune. Ça, c'est le cas de figure auquel on pense tous. Hein. C'est les gros épisodes cévenols ou quelque chose comme ça. Mais ça, je dirais, c'est prévu par ailleurs. Là, ce qu'on instaure avec cette délibération, c'est le régime d'astreinte et le régime de permanence. Donc, ça a le mérite de clarifier, pour nous élus notamment, on pense aux événements, on pense voilà, aux cérémonies, aux festivités et tout. Voilà, on voit très clairement, quand on va mobiliser des agents, ben, ce que ça peut représenter comme mobilisation. Donc, c'est un élément pour nous important. Voilà. Et il faut savoir, on fera le faire avec 15 jours d'avance. Et à partir de maintenant, ce sera écrit, hein, on écrira par mail à la personne pour qu'on voit la trace de la date à laquelle on demande à la personne d'être présente. Donc ça va demander de l'anticipation. Enfin 15 jours, ça va. Hein. On sait si on va à des cérémonies, des fêtes, des événements, des mariages ou des choses comme ça. Pour les astreintes, c'est plus... Voilà. Pour les astreintes, non. Les astreintes, c'est différent. Il n'y a pas de délai de 15 jours pour les astreintes. On peut demander d'intervenir à tout moment. C'est pour dire à la personne qu'elle est en astreinte qu'il faut au moins faire.
Il y a longtemps d'astreinte d'exploitation et d'astreinte de sécurité. Ceux qui sont des prêts à un gros orage dans 3 jours, on sait à peu près qu'il va y avoir un épisode. On va demander à un agent d'être en astreinte. C'est 3 jours avant, mais c'est majoré de 50%.
Mais je ne mettrai pas les personnes en astreinte. C'est une réquisition, n'est-ce pas?
Ah, mais l'astreinte téléphonique, par exemple, pour dire je te préviens. Enfin,
ouais. Mmh. Mmh. Mais nous, pour l'instant, l'astreinte, on ne l'a pas utilisée. On ne l'utilise pas aujourd'hui. On ne l'a pas utilisée.
Mais pour Laurence Vidal, quand elle fait les mariages, c'est quoi?
C'est une permanence.
Ah, c'est permanence.
Et les élections aussi, c'est permanence?
Non, ça c'est. C'est une permanence que je ne lui demande pas d'être en astreinte. À chaque fois, elle me demande. Elle me demandait jusqu'à présent, sauf qu'on n'avait pas un cadre. Elle me demandait, est-ce que vous souhaitez que je sois à la maison, prête à intervenir s'il y a besoin. Je disais, non, ce n'est pas la peine. Donc, elle n'était pas en astreinte. Elle venait juste à la fin, au moment du dépouillement, c'est une permanence, comme pour les mariages. Prévue de la date, elle venait pendant 1 heure, 3 heures pour faire le dépouillement. Elle n'était pas en astreinte. Elle m'a demandé si c'était nécessaire de rester en vigilance, quoi, et de pouvoir être mobilisée au cas où il y aurait un problème lors des élections. Si maintenant on décide entre nous qu'on a besoin d'un agent en astreinte, on décide entre nous. Pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Bon, moi, ça clarifie les choses. Si jamais un jour on en a besoin, on a les choses déclarées. Est-ce qu'on a d'autres
questions? Une question. Là, on spécifie effectivement les astreintes d'exploitation, de sécurité et astreintes de décision. Nulle part, il est spécifié le temps qu'a l'agent pour soit répondre au téléphone, soit se déplacer en fonction. Dans les astreintes, en général, on a un temps défini qui dit, voilà, vous avez 3 heures, vous avez 2 heures, vous avez 1 heure pour intervenir. Tu étais d'astreinte, j'étais d'astreinte, de toute façon, on connaît ça. On a un délai d'intervention. Là, il est spécifié nulle part. Je pense qu'il faudrait peut-être en clarifier.
Ouais, je pense que ça, c'est à nous de le décider, parce que nulle part dans les textes, c'est un
peu près tout.
Ouais.
D'accord. Mmh. Voilà.
Ouais,
c'est
ça,
on a le téléphone, et on sait qu'on a 3 heures pour interdire.
Ouais, voilà. c'est
ça évite que des fois les astreintes se fassent trop loin ou autre. Ça cadre.
D'accord, ça c'est un élément qu'on peut prendre.
Ça
ne
dépendrait
pas. Attendez, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît.
Oui,
Patrick.
On pourrait transporter, on pourrait transformer le temps en cercle, nous mettons à l'INA, c'est en fait quand on est d'astreinte, on a, mettons, 10 km dans l'agglo. On doit être, donc, parce qu'on estime que bon, on peut se déplacer là, plutôt que d'être figé à la maison, mais ça règle le temps et la distance. Voilà.
Bah, soit tu fixes un périmètre, soit tu fixes un temps, et après c'est à la personne de le gérer.
En fait, mais il faut fixer quelque chose, parce que si tu es d'astreinte, mais je sais pas, moi quand tu es parti chez la belle famille à 200 km,
c'est ça.
J'arrive. Ouais,
c'était pour ça que dans les astreintes, il y a des temps d'intervention qui sont fixés, qui permettent qui, entre guillemets, puisqu'ils sont payés, contraignent quand même les gens. Ils ont une certaine latitude, ils ne sont pas sur leur lieu de travail, mais ils ont quand même un temps d'intervention qui fait qu'ils ne peuvent pas effectivement partir, alors pas en Bretagne, excuse-moi, mais à d'autres endroits, parce que ça fait trop loin. Voilà. Je pense que ça, ouais,
ça bien c'est
peut-être apprécié.
Ok, bon, on y reviendra si on a besoin, on note bien. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions, d'autres questions? Donc, je mets au vote donc, cette délibération portant sur le régime d'astreinte et de permanence qu'on en place. Qui est contre? Moyennant le... Voilà, on a pris en note les observations. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, on passe à la dernière délibération, donc, qui est présentée par Mélanie Arnal, relative à l'extinction partielle de l'éclairage public.
Alors, je rappelle la volonté de l'équipe municipale de d'initier les actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie. Donc, on a mené depuis un an, pratiquement, une réflexion sur la pertinence et les possibilités de procéder à l'extinction nocturne partielle de l'éclairage public pour, d'une part, réduire la facture de consommation d'électricité et aussi préserver la biodiversité et la lutte contre les nuisances lumineuses pour la santé humaine. Et je rajoute aussi pour profiter du ciel étoilé pour tout ce qui est observation astronomique qu'on aura envie d'effectuer. Selon l'article 2212.2 du Code général des collectivités territoriales, l'éclairage public fait partie intégrante des pouvoirs de police du maire, même si cette compétence a été transférée à Montpellier Métropole. Le maire dispose donc de la faculté de prendre des mesures de limitation de l'éclairage public compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. D'après les retours similaires d'expériences d'extinction menées dans un grand nombre de communes, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d'incidence avérée sur la sécurité de la route et des personnes. Les voitures dans les communes non éclairées, si c'est pas éclairé, plutôt ralentissent et ils ont leur phare. Donc il y a eu une estimation... il y avait plutôt presque moins d'accidents que plus d'accidents. Plus de 12 000 communes pratiquent l'extinction en France et c'est de plus en plus vrai dans notre département. Donc là, il y a un peu un mouvement général. Techniquement, la coupure de l'éclairage nécessite des horloges qui sont dans des armoires de commande que nous avons déjà. Donc nous n'avons pas à faire des frais supplémentaires pour installer ces horloges. Et nous avons choisi de faire une période d'expérimentation de cette extinction de 6 mois. Donc à partir du 9 octobre, qui est le jour l'éducation nationale jusqu'au mois d'avril. Et l'extraction se fera entre minuit et 6 heures du matin. Et nous souhaitons à peu près au milieu ou deux tiers de ces 6 mois faire une seconde réunion publique pour voir un peu les retours des habitants. Cette démarche a été accompagnée d'une information de la population puisque nous avons fait une réunion publique en mois de juin. Et au bout de ces 6 mois, il y aura une signalisation spécifique à l'entrée du village. En période de fête ou d'événements particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit. Donc ça, du coup, nous signalerons à chaque fois à la métropole qui gère cet éclairage les jours où il faudra rallumer. Un comité de suivi est mis en place. Nous avons ce matin même rencontré le gendarme de Saint-Georges-d'Or, donc il va être attentif pour essayer de noter s'il y a accroissement soit des accidents, soit de la délinquance pendant cette période, sachant qu'on est quand même une commune où il y a très peu d'accidents et très peu de délinquance. Donc il nous disait si par exemple il y a un délit et que ça monte à 2, bah, ça augmente de 100%. Donc on ne va pas forcément témoigner en termes de pourcentage, mais on essaiera de donner le contexte de. Pareil pour les accidents, parce qu'il peut y avoir diverses causes qui ne sont pas forcément dues à l'infraction. Voilà, la police municipale, l'armée aussi est bien concernée, et les services de la métropole, et l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat.
Voilà, donc le conseil municipal, en fait, pour préciser par rapport à cette disposition, prend une délibération en termes d'approbation de cette de soutien, je dirais, à cette dynamique et va prendre acte d'un arrêté que j'ai signé, puisqu'en fait c'est du ressort de la police du maire. Donc c'est un arrêté en fait que je veux signer, mais on voulait absolument le passer en délibération du conseil municipal pour montrer que c'est une décision qui est prise par l'ensemble de l'équipe, portée par l'équipe. Enfin, Mélanie pilote le projet, mais voilà, on porte vraiment tout ça ensemble. Et donc dans la suite de cette délibération, je vais prendre l'arrêté déjà pour éteindre le 9 octobre de façon totale. On fera à nouveau une nuit totale le 9 octobre. Et puis à partir du 9, à côté du 10, donc l'extinction partielle de minuit à 6 heures.
On avertit les murs des voies comment là, pour le 9 ? Des flyers dans les boîtes aux lettres ?
Alors là, il y a, dans le bulletin municipal, il y a le programme. Juste. et puis il y aura des petites affiches qui sont préparées par l'ALEC, dans des flyers et affiches.
On a déjà mis un flyer dans toutes les boîtes municipales de la population au mois de juin.
C'est pour octobre. Mois de juin, il y en a beaucoup qu'on oublie.
C'est dans le bulletin.
Ce sera dans le bulletin municipal, on va le mettre sur Pageau Pocket, on va le mettre dans sur tous les moyens de communication. Oui, on va l'annoncer dans le Midi Libre.
On va vraiment à le mentionner, faire une communication la plus large possible.
Question, est-ce qu'il y a eu des réactions de Murviellois suite à la distribution du premier projet ? Zéro. C'est déjà ainsi.
Une. Une. Sur tout le village, une remarque. Suite au flyer, pour moi, de.
Il y avait des réticences fortes, on l'aurait su.
Mais il y avait pas de monde à
l'arrière. C'est quelqu'un qui part tôt le matin et qui s'inquiétait juste de ça, à 5 h du matin. De comment rejoindre la voiture depuis son domicile le matin à 5 h.
Elle vient du village.
Là, sur un quartier de Murviel, pendant 3 jours, on n'a pas eu d'éclairage. Personne ne s'est plaint. Il y a une personne qui m'a envoyé un message, mais c'est tout ce qu'il y a eu. Personne n'est allé à la mairie dire il y a un problème d'éclairage, alors que pendant 3 jours, on a eu zéro éclairage.
Ou ils ont pensé qu'on avait déjà enclenché l'opération.
Je pense que certains l'ont pensé, en tout cas, ça ne les a pas effrayés.
Alors d'habitude, dès qu'il y a un lampadaire qui est éteint ou autre, ils viennent demander à un e-service pourquoi celui-là est éteint ou autre. Là, on a eu 3 jours d'extinction totale, mais totale, il n'y avait pas d'éclairage. Personne n'a bougé. Donc, je pense que
mais
c'est...
ça n'empêche qu'il faut informer, tu as raison Laurent, il va falloir bien informer. Mais je pense qu'on a déjà. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment à mener progressivement, puisqu'il y a eu le premier jour de la nuit l'année dernière, où on a éteint. Il y a eu une autre fois au mois de janvier où on a éteint pour faire le repérage, où le groupe a fait le repérage dans le village des endroits qui pourraient être dangereux. On a fait ce flyer distribué dans toutes les boîtes, très pédagogique, en 4 pages, très complet. Il y a eu la réunion publique à laquelle malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment ça, il y a eu très peu de monde à venir. Est-ce que ça veut dire que les gens, ben voilà, sont maintenant, se sont appropriés ça quoi.
Il y a eu des articles dans Medilibre.
Articles dans Medilibre. On va en refaire, je pense que c'est important, un article dans Medilibre pour le 9. Et puis surtout, il va falloir bien être vigilant pendant l'expérimentation parce que les personnes qui ont des observations à faire, sur ce qu'on pourrait expliquer, voilà, bien noter tout. Quoi. Donc on a bien pris en compte la communication, on va continuer. S'il y a d'autres éléments. Oui, Jean-Claude.
Si on a le nombre de communes par département, ça peut être intéressant de le communiquer.
Sur les autres ?
Par département.
On essaiera de l'avoir.
Je ne sais pas, c'est pas une information.
Je peux le trouver.
On peut essayer de le trouver.
La lettre,
je sais qu'il y a 5 communes sur la métropole.
Sur la métropole aussi.
Il y a Prades, il y a Clapiers.
Mobiou
n'est pas sur la métropole. Sur la métropole, il y a Clapiers, Prades, il y a. Je crois qu'il y a Sussargues.
Castries,
je crois, et Muriel. Et il y a d'autres, il y a Juvignal qui se pose la question, Grabel.
Villeneuve-les-Madones.
Montpellier, ça pose la question sur certains axes.
Ah, mais Montpellier, oui, ils sont.
Oui, ils ont commencé sur certains axes.
Dans la vallée de l'Hérault, par exemple, il y a de très nombreux villages et villes. Il y a Agnan, je sais, qui se lance dans l'expérimentation.
C'est quand même très lourd à mettre en place. Et bon, quand on dit l'urgence climatique, c'est la moindre des choses. Ouais.
En plus, minuit 10h, après on peut même modifier les horaires l'hiver.
Il y a une urgence, c'est la biodiversité,
Très bien. Bon, écoutez, une toute dernière information, la métropole, le service métropolitain vont en profiter de ce qu'on éteint, pour remettre aux normes toute la signalétique. Parce qu'elle n'est pas partout aux normes encore. Vous savez, il y a des classes de signalétique, un taux de réflexion, des panneaux et puis des peintures au sol. Donc ils vont tout en profiter pour tout mettre aux normes. Et ça va être pris sur le budget métropolitain, ça ne sera pas pris sur l'attribution de compensation. Mais ça s'est dit, en même temps, la métropole va faire des économies, des bien voilà.
Par contre, on n'a pas le calendrier des travaux.
On va le demander. Est-ce qu'il y a d'autres observations ?
Non.
Sinon, je mets au vote cette dernière délibération. Donc, est-ce que vous prenez acte donc, au niveau du conseil municipal que nous allons prendre cet arrêté pour l'extinction, lancer une expérimentation d'extinction partielle.
Une expérimentale extinction doit être mise en œuvre. En fait, si on choisit de la mettre en œuvre, c'est pas une obligation de faire cette.
Ah non, mais c'est doit.
D'accord.
Va avoir lieu.
Oui, juste.
C'est pas l'obligation, mais je peux changer.
Sera.
Pour information, l'éclairage public n'est pas une obligation.
Oui. On avait découvert ça.
Oui. L'eau potable en est une, par exemple, juste comme ça, mais l'éclairage public à 60. L'eau potable, l'éclairage n'est pas une obligation. Mais dès lors qu'on a mis en place l'éclairage, on doit bien veiller si on l'arrête à prendre des arrêtés.
disposition de...
Ce n'est pas une obligation.
L'éclairage public n'est pas une obligation.
Est-ce qu'il y a encore une question d'observation? Sinon, je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci de prendre acte. Le conseil municipal est donc terminé. Je vous remercie.